Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans le numéro 118 de Famille, Justice, Enfance avec Stéphane sur RLP, Famille, Justice, Enfance, l'émission qui parle de la famille, de l'enfance et des influences de justice dans l'écosystème correspondant. Aujourd'hui, seconde partie de l'interview de Monsieur Sébastien Dupont, docteur en psychologie, thérapeute familial et conjugal, chargé d'enseignement à la Fac de psychologie de Strasbourg, formateur et superviseur qui pratique la thérapie familiale dans le cadre du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaires de Strasbourg, ainsi que la thérapie de couple dans le cadre du réseau de pros. Sébastien Dupont coordonne également le diplôme universitaire de thérapie familiale et a commis un certain nombre d'ouvrages chez RS et d'autres éditeurs. Nous verrons donc aujourd'hui avec lui l'impact du père sur le développement de l'enfant au niveau du langage et de la socialisation, puis les particularités de l'éducation paternelle, les jeux au corps à corps, jouer à faire peur, les taquineries, etc., ainsi que le père dans la dynamique familiale, soutien à la mère, coparentalité, etc. Mais tout d'abord, quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Pour commencer, un article de maître Anne Bourdeau-Bulot, avocat conseil, spécialisée dans les domaines du droit civil et du droit pénal, qui nous parle de l'enregistrement comme mode de preuve. En effet, aujourd'hui, il est très facile d'enregistrer une conversation téléphonique ou d'avoir un micro ou de prendre des photos. Est-ce que nous pouvons le faire et produire ces éléments dans un tribunal ? La réponse est mitigée. Chacun a droit au respect de sa vie privée. L'enregistrement n'est légal que si la personne a donné son consentement. C'est l'article 226.1 du Code pénal. C'est un procédé déloyal. En revanche, exception, il est utilisable si l'enregistrement permet d'identifier l'auteur d'infraction dans le cadre du pénal. Dans ce cas, c'est le juge qui décide si jamais le procédé permet d'innocenter ou d'accuser quelqu'un. C'est important, ne faites pas n'importe quoi, écoutez bien maître Anne Bourdeau-Bulot.
Alors avec l'évolution des technologies, sont apparus des modes de preuve beaucoup plus modernes, issus de techniques de reproduction ou de communication, tels l'enregistrement téléphonique, audio, photographique ou film. C'est légal si la personne a donné son consentement. Selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les enregistrements dans un lieu privé ne sont pas recevables comme homme de preuve si la personne n'a pas été tenue au courant. C'est considéré comme un procédé déloyal, irrecevable en justice. C'est une infraction, l'article 226-1 du Code pénal prohibe comme mode de preuve les enregistrements sans le consentement de la personne concernée. C'est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La preuve est recevable si c'est pour permettre d'identifier l'auteur d'infraction, donc en matière pénale. Les juges restent libres de déterminer la valeur probante de l'enregistrement. En effet, selon l'article 427 du Code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant lui.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Le 6 octobre 2022 au soir, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur de la proposition de loi MoDem sur les pensions alimentaires consistant à défiscaliser le parent receveur. Dans sa première lecture, l'article principal du texte permet aux parents recevant la pension alimentaire de la déduire de son revenu fiscal de référence. Ce texte a été voté par 46 personnes pour, une contre et 5 abstentions, contre l'avis du gouvernement, mais par le soutien du MoDem, de François Bayrou. En effet, Olivia Grégoire, ministre chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, vraiment très reliée à la famille, a déclaré devant le Parlement que ce texte avait une brèche sérieuse dans le calcul du revenu fiscal de référence, ainsi que des conséquences économiques difficiles à prévoir. En fait, au niveau des conséquences, nous avons un avis dessus. La pension alimentaire, maintenant, est incitatoire. Il y a un très grand intérêt à recevoir une pension alimentaire. Les députés de Renaissance sont abstenus de voter en laissant résonner les paroles de Denis Masseglia qui a mis en garde contre une rupture d'égalité. Nous arrivons donc aujourd'hui en France au concept de niche fiscale pour la pension alimentaire reçue à 96% par les femmes.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Sébastien Dupont, que nous avons entendu la semaine dernière nous parler de l'histoire de l'implication des pères et autres, qui nous a rappelé, comme Madame Castelin-Meunier, sur cette même antenne, que la révolution industrielle avait en quelque sorte fracturé les rôles parentaux et éducatifs des deux parents, que cette histoire effectivement n'était pas linéaire, que ce que nous voyons aujourd'hui de l'implication des pères auprès de l'enfance, une fois qu'il a passé les besoins physiologiques et autres, correspondait d'après Madame Castelin-Meunier à une espèce de rééquilibrage de la nature. Alors nous, on se place en Europe tempérée, parce que les choses sont très différentes dans les pays tropicaux, dans les pays très froids, mais en Europe tempérée, où on fait des réserves pour l'hiver, où la mortalité maladive tropicale est assez réduite et où tout le monde va plus ou moins dans le petit peuple s'occuper de ce qu'il y a à faire ensemble, contrairement à ce qui se passe dans la bourgeoisie et chez les dirigeants, on va se passer vraiment au niveau peuple et autres. Donc cette histoire n'est pas linéaire et on voit que tout ceci, en fait, est presque cyclique, vous nous disiez. Aujourd'hui, avec ces enquêtes récentes qui nous viennent beaucoup du monde anglo-saxon, mais pas que. Quel est l'impact du père sur le développement de l'enfant, du langage, de la socialisation ? Allez-vous me confirmer ce qu'on entend ici de manière régulière, c'est qu'il est bon que le père vienne se rapprocher de l'enfant et participe à sa construction intérieure en passant du temps avec, en suivant les devoirs et autres. Est-ce que véritablement ça a un impact ou c'est que pour se faire plaisir à soi-même ?
Non, en effet, on a désormais beaucoup d'études très intéressantes sur l'impact direct du père sur le développement de l'enfant dans plusieurs dimensions. On sait par exemple que, c'était des études très étonnantes qui ont fait un peu de bruit, qui ont montré que dans le développement du langage chez l'enfant, le père avait plus d'impact que la mère. Alors, une des manières de l'expliquer, sans trop rentrer dans les détails, quelque part, comme souvent d'ailleurs avec le père, c'est que des manques du père deviennent des qualités. C'est-à-dire qu'en fait, les pères, en moyenne, passent moins de temps avec les enfants que les mères, et donc ils ont tendance à moins s'adapter au langage des enfants que les mères. Et comme ils s'adaptent moins, comme on le dit en bon anglais, ils challengent plus les enfants. Et donc, on sait qu'ils vont avoir tendance, par exemple, poser plus de questions ouvertes. Qu'est-ce que tu as fait à la crèche? À quoi tu as joué? Des questions ouvertes, des questions dans lesquelles il n'y a aucun indice pour répondre à la question. Et ça, c'est très important pendant le développement du langage, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, puisque si on propose trop de questions avec indices ou des questions fermées à l'enfant, c'est-à-dire, alors, il était bien là, Maxime, aujourd'hui? Est-ce que tu as fait de la pâte à modeler? En fait, l'enfant peut répondre par mimétisme. Oui, il était là, Maxime. Oui, j'ai joué à la pâte à modeler. Les pères ont tendance à poser plus que les mères, des questions ouvertes qui poussent l'enfant à apprendre à répondre, posent plus de questions de clarification, si je ne comprends pas ce que tu me dis, recommence. Ils font plus de références à des événements passés ou à des événements futurs dans leur conversation avec l'enfant, sans donner à l'enfant aucun indice sur la réponse à avoir. Et donc on sait que l'implication du père dans les activités langagières avec l'enfant avant 4 ans, lire des livres, raconter des histoires, chanter des chansons, etc., prédit statistiquement les performances à l'adolescence en lecture et en mathématiques. Donc c'est des effets statistiques très forts. Ensuite, un autre domaine dans lequel le père a un fort impact en moyenne, c'est l'encouragement à l'exploration. C'est-à-dire qu'en schématisant un peu, on peut dire qu'en moyenne, l'éducation des mères est plus orientée vers le pôle protection de l'enfant, alors que celui de l'éducation des pères est plus orienté vers le pôle exploration. Donc le père incite plus à la prise de risque, à l'éloignement, à faire tout seul.
Là, nous voyons le poids de l'histoire, effectivement. Oui.
À aider l'enfant à s'affirmer, à aller vers des étrangers, à essayer par lui-même, etc. D'ailleurs, beaucoup de pères vont plus que les mères, ça ne veut pas dire que les mères ne le font pas du tout, bien sûr, mais plus que les mères, ils vont pousser l'enfant, ils vont jouer à la limite, ils vont faire ce que les psychologues du développement appellent des mises au défi sensibles. Mise au défi, ça veut dire qu'ils poussent, ils nous encouragent les enfants à faire quelque chose qu'ils ne feraient pas seuls, mais sensibles, c'est-à-dire qu'ils essayent quand même de s'ajuster à, il ne faut pas non plus effrayer l'enfant. Et ils pousse l'enfant. Et ce qu'on sait, c'est que dans les études longitudinales, on sait que les enfants qui bénéficient de mise au défi sensible par le père lorsqu'ils ont 2 ans, eh bien, on observe que ces enfants, 10 ans, 12 ans plus tard, sont des enfants plus sécures en moyenne que les autres. Donc ça a un impact très important sur la confiance en soi, sur la sécurité interne. Et donc, un peu dans le même ordre d'idées, on sait que le père a un impact important sur la socialisation de l'enfant. On observe qu'en moyenne, les pères, ça s'observe dès le scolaire, encouragent plus les enfants à interagir avec des étrangers. Et lorsque l'enfant a un problème avec un autre enfant, les pères, plus que les mères, vont encourager l'enfant à résoudre son problème tout seul, à parler à l'autre enfant, à parler à un autre adulte, alors que les mères vont peut-être plus avoir tendance à faire à la place de l'enfant. Donc tout ça a un impact en fait sur l'entrée de l'enfant dans le monde social, dans la vie extérieure de la famille.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Sébastien Dupont, docteur en psychologie, thérapeute familial, qui a fait de grandes études sur la structure de la famille, son évolution au cours du temps, et qu'est-ce que la parentalité paternelle et autres. Tiens d'ailleurs, commençons par ceci aujourd'hui, qu'est-ce qui est si particulier dans l'éducation paternelle? Elle est-elle différente, l'interaction maternelle? Est-ce qu'elle est plus physique? Est-ce qu'elle est plus dans des émotions extrêmes? Qu'est-ce qui est particulier?
Là, votre question est vraiment très intéressante. Qu'est-ce qui est particulier? En effet, il a fallu attendre très longtemps pour qu'on obtienne des études sur mais que font les pères? Observons les pères. Pendant longtemps, quand on a commencé à s'intéresser aux pères, en fait, on prenait comme référence ce que font les mères. Et ça, c'est une erreur méthodologique très grande. C'est-à-dire que si on prend comme référence, puisqu'en effet, pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a étudié que les mères, si on prend comme référence les connaissances qu'on a sur les mères pour observer le père, eh bien, mécaniquement, ça va nous amener à percevoir d'abord uniquement ce qu'on a prévu de percevoir, et puis surtout, mécaniquement, on percevra toujours les pères comme étant des mères en moins bien, en fait. Et donc, en fait, d'autres études ont pris le problème autrement et ont observé tout simplement ce que font les pères. Que font-ils sans idée préconçue? Et on s'aperçoit que, en effet, en moyenne toujours, ils ont une manière d'éduquer leurs enfants qui est significativement différente. Alors, il y a des grandes généralités. Par exemple, on observe qu'ils mélangent plus que les mères le jeu et l'apprentissage. Les mères dissocient davantage. Les pères ont tendance à mettre un peu de jeu dans tout. En cela, ils sont assez proches des pères renards ou des pères loups. C'est l'enseignement par le jeu. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que si on n'a pas ça à l'esprit, on peut avoir tendance à considérer que ce que font les pères, c'est pas très sérieux, en fait. Ils sont que dans le loisir. Alors que c'est très sérieux et que c'est très utile. On sait aussi que d'un point de vue éducatif, ils ont tendance à imposer des limites davantage non négociables que les mères. Il y a une étude assez amusante aux États-Unis qui avait été faite sur le coucher. En fait, on demandait aux pères et aux mères quelle était, selon eux, l'heure du coucher raisonnable pour leurs enfants. Puis ensuite, on observait directement chez eux comment ça se passait. Alors, les résultats, c'était que en moyenne, les pères considéraient que l'heure de coucher raisonnable comme étant plus tard que l'heure du coucher des mères. Mais en fait, dans l'observation factuelle, ce qu'on observait, c'est que lorsque les enfants étaient couchés par les pères, ils étaient couchés plus tôt que par les mères. Parce que les mères négocient davantage avec l'enfant. Ce qui peut être très utile, ça apprend à l'enfant à négocier, etc. Mais le côté limite non négociable qu'ont davantage tendance à adopter les pères est très utile aussi. Bien sûr, pour apprendre à l'enfant à gérer ses frustrations, à apprendre des récompenses différées. Si tu fais bien ce que je te dis, plus tard, tu auras un avantage, une récompense, etc. C'est très utile aussi. Après, on sait qu'en moyenne, les pères font beaucoup plus que les mères des jeux physiques de corps à corps. Ça peut être de la bagarre, du chahut, un peu informel, beaucoup de chatouilles, plus ou moins consenties par les enfants. Même si les mères le font aussi, la probabilité est beaucoup plus grande que le père se retrouve allongé par terre avec ses enfants sur lui, à chahuter, à faire une sorte de lutte gréco-romaine improvisée. Et en fait, ça, on a l'air comme ça de parler de quelque chose de, comme ça, d'un petit peu, d'un détail un peu drôle de la vie familiale. En fait, on a beaucoup d'études extrêmement sérieuses à ce sujet. Et en fait, on sait aujourd'hui que ces jeux physiques de corps à corps ont un impact important sur le développement de l'enfant.
Le peau à peau a de l'importance, mais le fait qu'il y ait en plus un peu de friction et autres, ça a aussi son importance, bien sûr.
C'est le côté friction, excitation de l'enfant. Et en fait, on sait que ça favorise chez les enfants la régulation du comportement et la régulation des émotions, notamment de l'agressivité. En fait, c'est comme, sans s'en rendre compte, ce que proposent les pères avec ces jeux, un petit peu informels, c'est des exercices de régulation des émotions. C'est-à-dire, on joue à la bagarre, mais attention, il ne faut pas perdre le contrôle. Ouais. On joue tous ensemble sur le lit, mais attention, tu n'as pas le droit de faire trop mal à ta sœur. Tu n'as pas le droit de faire trop mal. En fait, ça, comme souvent d'ailleurs avec l'éducation des pères, c'est les modalités éducatives qui jouent avec les limites et qui du coup aident l'enfant à percevoir la limite, à se contrôler, à se réguler. Et donc, on sait que, par exemple, à mélanger des émotions très différentes, c'est-à-dire que dans ces jeux de chahut, il y a à la fois du rire, de l'excitation, un peu de peur, un peu d'agressivité, un peu de compétition. Il y a de tout ça en même temps et l'enfant apprend petit à petit à réguler ses émotions. Je pointe spécifiquement ce type de jeu que font souvent les pères parce que souvent les pères eux-mêmes d'ailleurs n'ont pas tout à fait conscience d'à quel point ils apportent quelque chose à leurs enfants avec ces jeux. Ils se font plaisir aussi à eux aussi, mais ils apportent vraiment quelque chose à leurs enfants avec ces jeux. Et ça peut fréquemment, dans les familles, être un sujet d'incompréhension entre père et mère.
Puisque les parents que je vois autour de moi cherchent à s'instruire. Ce sont des gens qui posent des questions, qui font appel à des professionnels, qui lisent des livres, et effectivement par rapport à ces comportements que vous décrivez, que je reconnais totalement, que je vois autour de moi et que j'ai pratiqué, la contrainte, la crainte, le retour qu'on peut avoir, c'est parfois il va trop loin, d'où le c'est un petit peu ça. Donc je confirme à 100%.
C'est ça. Et c'est notamment fréquemment, sans généraliser aucunement, un thème d'incompréhension entre père et mère, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui régulièrement tournent mal. Et donc, certaines mères peuvent dire, mais ça tourne mal, et en plus, le lendemain, tu recommences.
On a un taux de mortalité infantile assez bas, quand même.
Ça tourne mal, c'est-à-dire qu'un enfant finit par pleurer, par se cogner. Elle dit, mais ça tourne mal, et le lendemain, tu recommences. Tu sais bien comment ça va finir, pourquoi tu recommences? Et en fait, les pères ne savent pas toujours comment justifier le fait qu'ils recommencent, mais en fait, alors, tant que bien sûr on reste dans la protection de l'enfant, bien sûr, le fait que ça tourne mal fait aussi partie du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs, quand on observe ces scènes de jeu spontané père-enfant, on observe que dans bien des cas, ça tourne mal, l'enfant se met à pleurer, mais si on laisse l'action se poursuivre, l'enfant se reprend très vite et veut continuer à jouer.
Oui, et il apprend à se réconcilier, en fait, à maîtriser ses émotions, action, frustration, pleurs, rejet, réconciliation, on recommence, redépart.
Exactement, c'est ce que vous dites. On surmonte ses émotions, on les gère, on passe à une autre émotion très vite. C'est vraiment une école de la régulation des émotions et de la vie. Et c'est vrai que, bien sûr, les mères sont très utiles, notamment pour le dialogue sur les émotions avec les enfants. Les pères ont des spécificités, par exemple, beaucoup plus que les mères, ils travaillent sur l'émotion de peur. C'est-à-dire qu'ils jouent à faire peur. Ça, c'est typiquement paternel comme type de jeu. Jouer à faire peur, faire semblant qu'on va faire tomber l'enfant dans la piscine, surprendre l'enfant, etc. Et d'ailleurs, souvent, l'enfant, même s'il est un peu circonspect, il adore, il en redemande quand je vois les faire peur. C'est-à-dire que là, le père aide l'enfant à réguler l'une des émotions qui peut être la plus inhibante, qu'est la peur. Et ça n'est pas rien, parce que quand on a appris à réguler sa peur, lorsqu'on y sera vraiment confronté, peut-être qu'on ne sera pas complètement immobilisé, etc., et qu'on arrivera à en faire quelque chose. Un autre point très spécifique de l'éducation paternelle, et là encore, il nous a fallu longtemps pour l'étudier sérieusement et voir à quel point ça pouvait être utile, c'est ce qu'on pourrait appeler les taquineries ou les plaisanteries au second degré. On sait que les pères taquinent beaucoup plus les enfants. Comme ça, les chambres, on pourrait dire. Taquinent, font ce qu'on pourrait parfois même appeler des blagues un peu de mauvais goût. Où ils jouent sur l'ironie, le second degré.
Ils bousculent un peu, les sortent de leur zone de confort.
Voilà, c'est ça. Et là aussi, On sait que ce genre d'humour que font spontanément les pères, c'est très utile pour le développement de l'enfant, puisque ça lui permet d'expérimenter dans un contexte de confiance, la critique, et de développer de l'autodérision. Ça, ça lui permet de développer la capacité à encaisser des moqueries, des critiques. En fait, ça l'entraîne, dans un contexte de confiance, à encaisser ce qu'il va peut-être être vraiment amené à encaisser à l'école. Bon, on parle suffisamment aujourd'hui du harcèlement.
Les enfants peuvent être cruels entre eux. Hein.
Bien sûr, c'est ça. Et en fait, travailler ça par l'humour, par le second degré, etc., c'est très utile. C'est très utile aussi en décodage des émotions, c'est-à-dire papa me dit quelque chose là, mais j'identifie par un tout petit signe de sa bouche que en fait c'est une blague. C'est très utile de s'aventurer dans ces zones grises. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Est-ce que c'est une critique? Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce qu'il y a de la tendresse dedans? En fait, la communication émotionnelle se travaille avant tout au niveau des limites et des zones grises. Et les pères ont tendance à apporter dans leur éducation ces terrains d'expérimentation.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Donc Sébastien Dupont, l'éducation, la parentalité, c'est une coparentalité. Elle ne se résout pas au soutien à la mère. Elle est beaucoup plus profonde que cela.
Bien sûr. En effet, c'est toujours important de resituer l'implication de chaque parent, père, mère, dans la dynamique familiale, dans le système familial qui s'organise. Là, sur ce point, on a aussi des études très intéressantes. D'abord, on sait que le soutien du père, là encore, c'est du soin indirect dont on avait parlé lors d'une précédente émission, le soutien du père à la mère a un effet statistiquement très significatif sur la sécurité psychologique de la mère et sur la qualité des soins que la mère prodigue à ses enfants. On sait aussi qu'on a des études très frappantes qui montrent que l'implication du père auprès de ses enfants dans les soins indirects est en général dépendante de la qualité de la relation conjugale et du niveau de soutien coparental, ce qu'on n'observe pas pour les mères. Les mères sont autant impliquées auprès de leurs enfants qu'elles s'entendent ou pas avec le père, alors que pour le père, si l'entente n'est pas bonne avec la mère, ils vont davantage perdre confiance ou avoir tendance à se mettre en retrait des soins aux enfants. Donc ça, c'est, on peut en penser ce qu'on veut, c'est bien, c'est mal, c'est...
Moi, je viens d'un environnement qui est rempli de pères qui font tout ce qu'ils peuvent pour accéder à leurs enfants. Je sais que on en parlera dans la prochaine partie, hein, mais c'est assez significatif pour que, si vous voulez, des émissions de radio se créent, des livres s'écrivent, des associations se mettent en place. Le père qu'on empêche d'accéder à son enfant alors qu'il ne s'entend plus avec la mère, chez une partie de ceci au moins chez une partie assez conséquente de ceci, est extrêmement générateur de souffrance et ils souhaitent le faire. Ils ne se mettent pas en retrait du tout, mais vraiment pas du tout. Hein. Alors, je ne parle pas de tous, mais nous avons une partie de la population concernée qui, elle, au contraire, n'a pas du tout envie de se mettre en retrait.
Bien sûr. En fait, ce que vous dites pourrait évoquer, là, je vous parlais davantage des pères séparés, mais même dans les couples encore unis, on sait en effet que peuvent se mettre en place, quelles que soient les volontés des pères. Il faut toujours dissocier la volonté de, après ce qui se passe dans l'interaction familiale, l'interaction avec la mère, etc. On sait que la mère peut tenir un rôle, comme disent les chercheurs anglais, de gatekeeper, c'est-à-dire de gardienne, quoi, en fait, hein, de gardienne de la porte de l'accès aux enfants. Et on observe que notamment à la naissance de l'enfant ou dans la toute petite enfance, certains facteurs peuvent amener des mères, tout ça n'est pas toujours volontaire, à mettre à distance le père. Alors, ces facteurs, ça peut être des angoisses. On sait que la mise au monde d'un enfant est très perturbante à tous les niveaux, psychologiques, hormonaux, etc. pour la mère. Ça peut être une dépression du postpartum qui a tendance à rendre la mère très anxieuse, très méfiante, etc. Et donc, en fait, ce qu'on observe chez certains couples de parents, y compris lorsqu'ils sont encore ensemble, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que la mère est angoissée, elle réagit en mettant à l'écart le père de l'enfant, n'ayant pas confiance, etc. Et le père, de son côté, s'il n'arrive pas à forcer la porte, on pourra dire, eh bien, va Parfois même en pensant bien faire, dire bon ben pour l'instant je vais la laisser, puisqu'elle a besoin, je vais la laisser, je reviendrai plus tard, dans un mois, dans quelques mois, lorsqu'il sera plus grand, etc. Et en fait, mais plus le père va se mettre en retrait, plus il va se sentir incompétent. Lorsqu'il va s'occuper de l'enfant, la mère va avoir le sentiment, à tort ou à raison, qu'il le fait mal, donc son angoisse va être décuplée, donc elle va vouloir mettre le père à distance, etc. Donc on a un cercle vicieux qui peut s'installer et cette dynamique que je viens de décrire interactive, peut-être que les professionnels, notamment les professionnels de la petite enfance, gagneraient à y être mieux avertis, mieux formés. C'est pour ça qu'il est toujours très important que les professionnels voient les deux parents et travaillent la coparentalité dès le début, dès la petite enfance, l'interaction entre les parents. On ne dira jamais assez que le plus important dans la parentalité, en fait, c'est la coparentalité. Tant que les parents sont ensemble ou séparés, tant que les parents ne parviennent pas à se globalement, en majorité, se soutenir mutuellement, se passer le relais, se faire confiance, chacun des parents est affaibli.
Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance.
Du ventre plat au ventre rond, il y a eu l'espace d'un frisson. Un bref éclair est dans ton corps, un bruit d'orage. Comme si sur son cheval noir, venu du fond de ta mémoire, un Attila balayait tout sur son passage. Et au bout de quelques semaines, sous la terre où ça court, ça fuit, on t'a dit qu'il t'était poussé un drôle de fruit. Et te voilà qui porte dans ton ventre ce bout de terre que le ciel t'a planté et qui demain, comme une île flottante, dérivera, s'engloutira, t'engloutira du ventre plat au ventre rond. Il y a eu cette pluie sur ton front, des cheveux bruns ébouriffés, des mains qui luttent. Et puis soudain, plus rien à voir, t'as eu comme un trou de mémoire, un grand vertige et puis l'abîme et puis la chute. Et au bout de quelques semaines, alors que tu n'y pensais plus, tu es devenu la maison d'un inconnu. Et le voilà qui bouge dans ton ventre, ce conquérant, ce soldat, ce guerrier qui mord ta vie de sa bouche insolente et qui demain s'échappera, t'échappera du ventre plat au ventre rond. Ne restera que son prénom, que ses copains crieront à la sortie des classes. Et tu auras beau fouiller le soir le livre ancien de ta mémoire, de ce plaisir d'amour d'une heure, plus une trace. Et la douleur sera lointaine qui aura crucifié ta peau juste avant qu'il ne dorme en paix dans son berceau. Et le voilà qui torture ton ventre, enfant gâté, il trépigne déjà. Et le voilà déjà qui s'impatiente au fond de toi pour s'en aller là-bas, là-bas, cet enfant-là, maman. C'est moi.
RLP.
Radio libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.